Penser qu'un accord est possible d'ici la fin du mois, comme l'a déclaré Manuel Valls avant son départ début avril, et comme l'a répété François Bayrou la semaine dernière au Sénat, relève sans doute de la pensée magique. On ne voit pas encore dans le document proposé par l'État les éléments constitutifs d'un accord politique, et on ne voit pas ce qui pourrait évoluer de façon décisive d'ici le retour du ministre des Outre-mer le 29 avril, même s'il a prévu de rester une dizaine de jours sur le territoire, ce qui prouve son opiniâtreté. Mais sauf miracle, on ne voit pas sur quoi les positions des uns et des autres pourraient converger, sauf à ce que l'un des camps fasse des concessions insupportables pour sa base. C'est ce que confirme le document top secret de l'État qui est désormais sur la place publique. On se disait bien qu'il était impossible qu'il ne soit pas divulgué, dans la mesure où au moins une vingtaine de négociateurs en avaient été destinataires. La confidentialité aura tout de même tenu une dizaine de jours, ce qui, à l'heure des réseaux sociaux, est tout à fait exceptionnel, au point que l'on se demande qui a craqué et pourquoi l'un des détenteurs du précieux document a cru bon de le faire fuiter. Ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas non plus très malin, parce que franchement, ça risque surtout d'apporter plus de confusion et plus d'incertitude aux discussions. Et à qui profite le crime, si ce n'est à ceux qui ne veulent pas d'accord? De toute façon, ce document est déjà périmé, puisque ce n'est qu'un projet mis sur la table par l'État. Un nouveau document martyr qui ne veut pas dire son nom, après que le premier qui nous avait occupé pendant quelques mois ait été purement et simplement enterré. En fait, on a l'impression que l'État tâtonne dans sa recherche d'un accord global et qu'il tente encore de donner des gages aux uns et aux autres sans jamais prendre ouvertement parti. Pour les indépendantistes, ils mentionnent Naville-les-Roches et le droit inaliénable à l'autodétermination, mais surtout l'engagement de la Calédonie dans une nouvelle étape de son émancipation, une formule qui a tout de même des allures de trajectoire vers la pleine souveraineté, réclamé à cœur et à cri par l'UCFLNKS. Pour les partisans de la France, il évoque le caractère intangible du principe démocratique et du respect de l'état de droit et la prise en compte des trois scrutins d'autodétermination qui ont confirmé la volonté d'une majorité de Calédoniens de maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Bref, il y a tout et son contraire et l'on est désormais échaudé par les ambiguïtés que peuvent recéler ces textes. Et quand on sait que la première séquence de négociation, que le FLNKS appelle toujours « discussion », n'a permis d'évoquer que les considérants, on ne voit pas comment un compromis global pourrait être trouvé dans un laps de temps aussi court. À cela s'ajoute un nouvel élément. À entendre Emmanuel Tchibaou, on a cru comprendre que c'est Christian Théin qui, depuis sa cellule de Mulhouse, mène les discussions pour le FLNKS. Le député de la seconde circonscription affirme en effet tranquillement qu'avec le dépaysement, il a pu discuter librement avec le président du FLNKS, autant sur la stratégie que sur la méthodologie. Une révélation qui met pour le moins mal à l'aise, 11 mois jour pour jour après le déclenchement des violences insurrectionnelles. Un épisode effroyable auquel restera lié bien sûr le nom du haut-commissaire Louis Lefranc. C'est lui qui a dû faire face à cette folie destructrice et c'est lui qui a réussi à rétablir l'état de droit, malgré les circonstances, et sans les moyens qu'il avait pourtant réclamés, puisque quand il avait demandé des renforts, on lui avait reproché sa gourmandise. Louis Lefranc partira début mai, sans doute avant la conclusion d'un accord, mais on peut penser que lui, il n'est pas adepte de la pensée magique.